pouvez avoir d'autres servitudes, par exemple une servitude de pacage qui vous permet d'aller faire paître, par exemple, vos moutons sur la terre voisine. Vous avez aussi des servitudes de puisage qui vont vous permettre d'aller puiser de l'eau sur le fond voisin. Et en fait, le domaine des servitudes, c'est là très particulier, n'est absolument pas limité. Et il est extrêmement riche lorsque l'on touche, enfin lorsqu'on essaye de rechercher dans les ouvrages, dans les traités de droit, des exemples de servitude. Alors, si on s'en tient à ce que nous dit le Code civil, hein, selon qui on trouve cette disposition selon laquelle une servitude, c'est une charge pesant sur un fonds de terre au profit d'un fonds de terre appartenant à un autre propriétaire, et qu'on le confronte à ce que nous disent aujourd'hui les auteurs, comment vont-ils nous expliquer cette disposition ? Parce qu'a priori, on est en train de nous apprendre qu'un non-humain peut être titulaire de droit. Or, dans la doctrine la plus classique, la plus courante, on vous dit mais seuls les êtres humains peuvent être des personnes, et en particulier, donc, enfin, on identifie généralement nos mots de personne à celui de sujet de droit, peuvent être titulaires de droit. Seuls les non-humains peuvent avoir des droits. Alors, c'est assez amusant parce que si on regarde donc, ce qu'en disent les auteurs d'aujourd'hui, la manière dont ils lisent cette disposition qui vient contredire frontalement leurs présupposés, selon lesquels seuls les êtres humains ont des droits, seuls les êtres humains seraient des sujets de droit, eh bien, on s'aperçoit qu'ils vont nous dire que le Code civil ne dit pas ce qu'il veut dire, qu'il y a là une image, que c'est inintelligible, que c'est incorrect, que c'est une métaphore, qu'il y a là un anthropomorphisme, voire un anthropomorphisme excessif. Donc on ne veut pas admettre ce que le code nous dit, à savoir, oui, un fond de terre, un non-humain, peut avoir la propriété de droit, peut avoir des droits. Alors on va essayer de contourner les choses. Il y a par exemple certains auteurs qui vont vous dire que ce n'est pas possible que les fonds de terre soient eux-mêmes propriétaires de droit. En fait, il faut comprendre le texte autrement. Il faut comprendre que le propriétaire du fonds dominant, c'est-à-dire le propriétaire du fonds qui bénéficie du service rendu, eh bien, est le véritable sujet de droit. Et que, évidemment, ce n'est pas le fonds de terre qui est sujet de droit, mais, évidemment, le propriétaire du fonds dominant. On va avoir d'autres auteurs qui vont nous dire... Non, il faut lire vraiment les articles du Code civil tels qu'ils sont libellés. On nous dit bien que la servitude ne profite pas et ne peut pas profiter à une personne, mais qu'elle peut profiter seulement à une terre, seulement à un fonds de terre. Et alors, ils vont en déduire la conséquence que, puisque seuls les êtres humains, ils disent les personnes ou les sujets de droit, peuvent avoir des droits, eh bien, il faut en déduire que la servitude n'est pas un droit. Donc on va refuser la qualification de droit à la servitude au motif que c'est impossible de considérer que les fonds de terre peuvent avoir des droits. Et on en a enfin qui vont considérer que finalement, il faut comprendre les articles du Code civil pour ce qu'ils disent. Nous avons effectivement des servitudes qui sont des droits qui sont attribués à des fonds de terre. Mais alors il faut bien y voir ici que les fonds de terre sont comme personnifiés, sont des personnes. Qu'il faut se les penser comme des personnes. Et c'est là notamment ce que nous dit le doyen Carbonnier, et c'est assez intéressant parce que dans son article qui s'intitule, qui touche à métaphysique des biens, il parle même d'animisme. Est-ce qu'il ne faut pas là reconnaître finalement que le Code civil, donc les grands acteurs du Code civil en 1804, eh bien, ont une vision animiste des fonds de terre. Et il fait le lien. On est pourtant dans les années 70, avec les combats écologistes en cours et avec la volonté de certains de reconnaître la qualité de sujet de droit à la nature. Et donc j'en viens là à l'intérêt que pourrait présenter aujourd'hui le droit des servitudes si l'on acceptait de considérer que le Code civil dit bien ce qu'il dit et qu'il accorde bel et bien la propriété de droit à des non-humains, en particulier à des fonds de terre. Le premier intérêt, je pense évident, je pense que vous en avez tous connaissance, c'est le grand mouvement de personnification de la nature et de ces éléments qui est en cours aujourd'hui. Avec, dès 2008, la reconnaissance en Équateur, dans la constitution équatorienne, de la qualité de sujet de droit, de personne juridique à la nature. le mouvement, l'idée a fait florès, puisque ensuite en Bolivie, on a également suivi l'Équateur avec une loi de la nature en 2010 qui reconnaît des droits à la nature. Plus récemment, vous avez entendu parler évidemment du fleuve Whanganui, à qui on vient d'accorder la personnalité juridique en Nouvelle-Zélande. On a aussi le Gange et son affluent, le Yamuni, en Inde. Plus récemment encore aux États-Unis, c'est le lac Erie. Je ne me souviens plus de l'état précisément des États-Unis, mais on vient de lui accorder en tout cas des droits. En Nouvelle-Calédonie aussi française, on accorde cette possibilité. Donc, finalement, est-ce que le droit des servitudes ne pourrait pas venir apporter son complément, son aide à ce mouvement de personnification de la nature? Car il faut bien voir que, en droit, vous me dites si je dépasse mon temps, je ne sais pas qui compte, il faut bien voir qu'en droit, attribuer la personnalité juridique ou reconnaître la qualité de sujet de droit à la nature, ça n'a pas tout à fait la même signification que lorsque l'on dit que des peuples d'Amazonie ou je ne sais pas, accordent, voient les non-humains comme des personnes. En droit, lorsque l'on reconnaît, en tout cas pour l'heure aujourd'hui, et tel que c'est communément compris, lorsque l'on accorde la personnalité juridique à un être humain, cela signifie que l'on va lui accorder un porte-parole, qu'on va lui permettre d'avoir des représentants, qu'on va permettre de parler au nom de cet être non humain, comme on permet, par exemple, à des représentants légaux, un tuteur, de parler au nom d'un enfant ou d'une personne majeure vulnérable, une personne handicapée qui ne serait pas en mesure de s'exprimer. Donc ça veut dire qu'en droit, lorsque l'on reconnaît la personnalité juridique à des choses de la nature, finalement tout ce que l'on fait, c'est de les considérer en quelque sorte à jamais comme des mineurs non émancipés ou des personnes majeures vulnérables. En droit aussi, lorsque l'on accorde la personnalité juridique, on vient comme gommer, possiblement, le collectif sous-jacent. La personnalité juridique, vous le savez, elle peut être accordée à vous et moi, personne physique, elle peut être aussi accordée à une société, à une association, qui sont alors des groupements d'êtres humains, des collectifs d'êtres humains. Et dans ces cas-là, et c'est vrai aussi pour les communautés autochtones, les peuples autochtones ou les communautés locales, accorder la personnalité juridique, c'est comme gommer le collectif. Parce qu'on va considérer alors que le propriétaire de droit, ce n'est plus le collectif, mais c'est la personne morale au singulier, une personne morale. Donc reconnaître la personnalité juridique telle qu'on le comprend aujourd'hui, ça pose un certain nombre de difficultés. Or, si on suit le droit des servitudes, si on veut bien remonter au droit des servitudes, ça nous permet au contraire de penser l'attribution de droit aux choses de la nature sans passer nécessairement par la case de la personnalité morale, sans passer nécessairement, je le dis autrement, par le procédé de la représentation. Ça nous permet de considérer évidemment que les êtres humains sont là en droit, mais non pas tant pour parler au nom des autres, mais bien plutôt pour se considérer comme les intendants des lieux, les intendants des fonds de terre, les intendants des milieux, les intendants des choses. On pourrait dire aussi à la place d'intendants les mandataires. Alors évidemment, passer de la catégorie passer de la proposition selon laquelle les êtres humains ne sont pas tant les représentants des choses de la nature, mais bien plutôt leurs intendants, il y a là juste un petit décalage. C'est pas une solution totalement alternative. Mais il me semble que l'on pourrait aller en ce sens, c'est-à-dire que reprendre à nouveau frais le droit des servitudes, qui est un droit florissant, très, très riche, qui a été comme caché, escamoté à la Révolution française, il en reste quand même plusieurs dizaines d'articles dans le Code civil, nous permettrait d'aller plus loin que le procédé actuel de personnification de la nature, en dépassant la question de la représentation et en permettant véritablement aux habitants, par exemple, d'une forêt, de parler au nom de la forêt, parce qu'ils sont la forêt elle-même. Vous voyez, on ne passe plus par le procédé de la représentation, ou en tout cas plus seulement. Accorder des droits aux choses de la nature, ça ne signifie plus alors seulement leur accorder la parole aux choses de la nature, ça permet directement de leur accorder des droits, de leur reconnaître une manière d'intentionnalité, en fait, aux choses de la nature, et en particulier, si on reprend l'idée des servitudes les font de reconnaître une manière d'intentionnalité au fond de terre, aux terres, au milieu, aux écosystèmes. Évidemment, on peut extrapoler. Alors, vous me dites si j'ai dépassé mon temps de parole. Oui, alors, juste pour terminer, je dirais aussi que reprendre à nouveau frais le droit des servitudes, évidemment, ça permettrait sans doute d'aller plus loin dans le cadre du mouvement de personnification de la nature, mais ça permettrait aussi, pour peut-être certains d'entre vous à qui ça parlerait, de dépercer certaines apories relatives au mouvement des communs. Je ne sais pas si on a entendu parler, si ça vous parle ou non. Actuellement, on a un grand mouvement autour des communs qui permet, je le dis en un mot, de réhabiliter les propriétés collectives. Or, ce mouvement des communs pose un certain nombre de problèmes dans la mesure où les communs, ce sont des biens, on considère que ce sont des communautés en fait, qui mettent en commun certaines ressources, les ressources étant des non-humains. Évidemment, on ne reconnaît plus alors l'agentivité propre des non-humains. Et si on passe par le biais des servitudes, alors il y a peut-être le moyen de considérer les non-humains autrement comme des ressources que les communautés villageoises, je reprends mon exemple de départ, mettraient en commun, mais bien plutôt comme des membres à part entière des communautés, ce qui nous permettrait d'ouvrir les communautés au-delà des sociétés, des communautés exclusivement fermées aux humains, aux non-humains, ce qui rejoint certaines des préoccupations, par exemple, de Bruno Latour ou de Philippe Descola, d'ouvrir les communautés au-delà des communautés dites naturalistes qui ne comprennent que des humains, justement, groupant entre eux, enfin, gérant, en fait, une manière de ressources. Bon, j'arrête là, parce que je crois que c'est terminé. Merci.
Merci, Sarah. Donc, vous préférez faire un petit échange ? Les échanges, oui, autour de discussion de Nicolas et Sarah ? Il y a quelqu'un qui veut poser une question ?
Oui, que devient, à la lumière de ce que vous venez de nous expliquer si clairement concernant, entre guillemets, la personnalité juridique attribuable à des éléments de la nature, pour le dire de façon naïve, que devient l'évolution du droit des animaux ? Il y a peut-être un écho là et qui peut éclairer encore la question.
Alors, le droit des animaux, on pourrait dire que c'est une question plus spécifique, enfin, qui touche directement aux droits accordés à la nature ou aux choses de la nature ou à la nature et ses éléments, on le dit comme on veut. Ce que je peux dire, c'est que depuis, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2015, les animaux ont changé en quelque sorte de statut juridique, encore que ce soit contestable, puisqu'ils sont... On dit désormais, je crois que c'est l'article 515-14, je ne suis pas bien sûr, du Code civil, qui nous dit que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, sous réserve de se voir, sous réserve sous réserve des dispositions qui les protègent. Autrement dit, on considère que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, donc ça c'est tout nouveau. Le fait de considérer qu'ils sont des êtres vivants doués de sensibilité, puisque auparavant ils étaient simplement considérés comme des biens meubles, à l'égal, par exemple, un temps, des esclaves, qui étaient aussi qualifiés de biens meubles. Et puis, on les considère aussi, on les considérait aussi, tantôt comme des immeubles par destination, immeubles donc fixes comme un bâtiment, dès lors qu'ils étaient par exemple affectés, c'est toujours le cas, hein, dès lors qu'ils sont affectés à une exploitation par exemple agricole.